L'entreprise du jour, vous la connaissez. J'en suis sûre et même certaine. Mais peut-être vous ne l'envisagez pas comme telle, car il est vrai, elle possède une double nature. Lorsqu'on en parle dans les médias, c'est dans la rubrique sport. Plus précisément, hockey sur glace et non pas économie ou finance. On s'intéresse davantage à son championnat, ses joueurs, ses résultats, son entraîneur, son classement, qu'à son budget, son chiffre d'affaires ou encore ses sponsors. Or, l'un ne peut exister sans l'autre. L'entreprise du jour est un club sportif évoluant dans l'élite du hockey suisse. Troisième de la saison régulière, le club a joué les demi-finales des play-offs après 28 ans l'an dernier. Cette saison, il pointe pour l'heure à la troisième place du classement. Dernier indice, ses couleurs sont le rouge et le jaune. Vous l'aurez deviné, il s'agit du HC Bienne. Quant à mon invitée, elle est la vice-présidente du club, l'une des rares figures féminines du hockey en Suisse, mais aussi et surtout le visage et la voix du HC Bienne en Romandie. Stéphanie Meria, bonsoir.
Bonsoir.
Sortie de boîte, Anastasia Lirti.
Avant de parler du HC Bienne, nous allons faire plus ample connaissance avec vous, Stéphanie Meria. Cela fait 10 ans que vous siégez au conseil d'administration du HC Bienne. Vous êtes donc arrivée lorsque le club est remonté en Ligue Nationale A. La passion pour le hockey vous a été transmise par votre papa, qui était un mécène du HC Bienne. C'est donc une histoire de famille.
Alors c'est une histoire de famille qui remonte même avant papa, puisque c'est grand-papa qui m'emmenait au match. Et puis après papa qui était mécène, et puis moi adolescente qui était amoureuse des joueurs, c'est absolument incontournable en adolescente biennoise. Et puis maintenant, je suis toujours amoureuse des joueurs, mais pour leur performance uniquement.
De là à rejoindre le conseil d'administration, il y a quand même un, voire plusieurs pas. Comment cela s'est fait ?
Alors ça s'est fait de manière assez arrosée, on va dire, puisque ça s'est fait le soir de la remontée en Ligue Nationale A. C'était encore la Ligue Nationale A à l'époque. Et puis j'étais très fatiguée, on va dire, sur la place Guizan, avec beaucoup d'autres gens qui étaient en train de fêter l'événement. Et puis là, avec ma gouaille habituée, j'ai dit, oh, j'en ai marre de ce club, de toute façon, vous ne faites jamais rien pour les romans. Sur quoi on m'a répondu, arrête de râler et viens bosser avec nous. C'est comme ça que ça a commencé.
Ce que vous ne dites pas, c'est que vous avez le profil pour diplômé de HEC Lausanne. Vous avez complété votre formation par un master en management international entre Lausanne et Boston. Vous avez notamment été assistante marketing à l'UEFA. Le management d'organisations sportives vous a toujours intéressé?
Alors c'est vrai que le marketing en règle générale et puis le management sportif après, une fois que j'avais attaqué les études, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait tout particulièrement. J'ai vraiment eu de la chance de commencer par le caviar du management sportif, c'est-à-dire que je suis arrivée dans une entreprise, l'UEFA, qui est controversée, certes, mais au moins on a la liberté d'avoir des budgets qu'on n'a pas forcément ailleurs, et puis une envergure, et puis une connaissance qui est vraiment sympathique. Et j'ai vraiment appris mon métier là, grâce à quelques chefs que je remercie d'ailleurs, parce que sans les petits coups de fouet qu'ils m'ont donnés, je n'aurais pas appris autant. Et puis il y en a deux en particulier qui m'ont vraiment donné le goût de ce métier.
Il est important de préciser que le conseil d'administration du HC Bienne est composé de 6 membres, tous bénévoles. Vous avez donc une deuxième casquette, puisque vous dirigez Mercer Transac, la société familiale immobilière. Ce sont deux activités complètement distinctes où vous y trouvez tout de même des points communs.
Alors, complètement distincte, oui et non, parce qu'en fait, ma vie, elle est assez organique. Il y a des moments où je suis au bureau, mais je fais du HC Bienne. Il y a d'autres moments où je m'occupe un peu plus d'immobilier. Donc, il y a forcément des points qui reviennent, parce que c'est des gestions humaines, c'est des gestions de gens, c'est des gestions d'équipes, c'est des gestions de projets. Et puis de cette manière-là, il y a quand même des points qui se retrouvent. Maintenant, évidemment, au niveau du HC Bienne, il y a toute la composante émotion qu'on ne va pas retrouver dans l'immobilier. J'aime bien l'immobilier, mais enfin, la passion émotionnelle à la construction d'un bâtiment, elle n'est pas là, quoi, quand même.
Dans cette émission, on a pour habitude d'évoquer l'histoire, ou du moins une partie de l'histoire des entreprises. Celle du HC Bienne est très longue, puisque le club a vu le jour en 1939. Ça mériterait une émission à part entière. On va donc s'arrêter sur 4 dates clés que vous avez choisies, Stéphanie Meria. On commence par le 8 avril 2008. C'est la date de remontée du club en LNA après 13 deux saisons en NLB. Vous venez de nous raconter une anecdote à ce sujet. Ensuite, il y a eu la saison 2012-2013, saison durant laquelle des stars nord-américaines sont venues jouer à Bienne en raison du lockout en NHL. Une grève donc sous fond de mésentente sur le plafond salarial des joueurs. On a vu évoluer à Bienne Patrick Kane, Tyler Seguin pour une courte durée. Est-ce qu'ils ont répondu aux attentes?
Alors, ils ont plus que répondu aux attentes parce que, bon, déjà au départ, l'arrivée de Tyler Seguin, ça s'est assez bien goupillé. Lui, il était encore jeune joueur, il était déjà très bon, mais il n'était pas aussi talentueux que ce qu'il a été par la suite. Et puis, il avait de toute façon envie de jouer, donc il a envie de se trouver une équipe où il pouvait être la star. Et puis, à ce moment-là, il y avait encore Kevin Schlepfer comme entraîneur et puis notre directeur sportif qui était déjà Martin Steinegger se sont dit, sur le ton de la plaisanterie, bon, ben, si déjà on arrive à avoir un Seguin, allons-y, c'est quoi ton joueur vraiment t'aurais envie. Le nom de Patrick Kane est tombé, ils sont appelés et on leur a dit oui, ils sont tombés sur les fesses évidemment parce qu'ils n'ont jamais imaginé avoir un joueur de l'envergure de Patrick Kane. Et encore aujourd'hui, presque, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on est, 8 ans après ou je ne sais pas combien, 6 ans après, il a toujours encore cette envergure, il a toujours ce génie sur la glace et puis ça c'était vraiment quelque chose d'incroyable de les voir évoluer dans notre vieux stade de glace, c'était bien.
Et justement, comment se déroulaient les matchs? L'ambiance était particulière, j'imagine.
Alors, je ne me rappelle pas de tous les matchs, mais c'est vrai qu'il y a eu certains matchs qui étaient vraiment exceptionnels parce qu'ils ont fait le show. Ils avaient ce statut et puis cette envie d'être star. Ils le sont dans l'âme. Et là, ils pouvaient l'être en plus sur la glace parce que forcément, nos joueurs, ça les a tous boostés, mais ils n'ont pas été. Ils ne sont pas aussi talentueux, malheureusement, sinon ils joueraient aussi tous en NHL. Malheur pour nous. Et donc, du coup, c'est vrai que ça a tiré toute l'équipe vers le haut. Ça a mis une ambiance. Il y avait des matchs où les gens étaient debout. Il y avait des hola. Il y avait des choses qui se sont passées dans cette patinoire qu'on n'avait pas vues souvent.
Ensuite, il y a eu la saison 2015-2016 qui a été marquée par le déménagement à la Tissot Arena. Premier match le 12 septembre 2015 contre le CP Berne. La nouvelle patinoire a été capitale pour le HC Bienne.
Alors, elle était absolument indispensable parce que dans l'ancienne patinoire, avec le manque d'infrastructures, le manque de revenus dû à la gastronomie, aux loges, à tout ça, et même aux places, puisqu'on manquait de places assises, on n'aurait pas pu continuer. Il y avait un déficit chronique de quasiment un demi-million de francs. Donc à ce rythme-là, il fallait trouver ce demi-million de francs souvent dans les poches des membres du conseil d'administration. On a tous dit, on le fait un moment pour soutenir ce changement de patinoire, mais à long terme, on n'aurait pas été capable de le faire. Donc ça aurait signé l'arrêt de mort du HC Bienne en Ligue Nationale A.
Alors certains sont très nostalgiques du stade de glace. Effectivement, à la Tissot Arena, il y a moins de place debout. L'ambiance est moins électrique, disent certains. Est-ce que vous partagez cet avis?
Je comprends, les adeptes du « c'était mieux avant », on les a tous. Et puis, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'il faut prendre ses marques, il faut se réhabituer, il faut retrouver sa place, l'ambiance, la luminosité n'est pas la même, le son n'est pas le même. Mais maintenant, on voit quand même, la patinoire se remplit bien, on commence à avoir des affluences qui sont sympathiques. Donc du coup, il y a quand même des moments où l'ambiance revient, où on voit quand même cette vie, cette espèce de chaudron qui renaît. Alors, on n'y est pas encore, parce que je pense qu'il faut quelques années pour s'y remettre, mais on s'y dirige, et puis si les résultats peuvent continuer comme ça, je pense que l'engouement, il est là, et puis les gens ont cette passion, et elle va déborder.
Dernière date clé, la dernière saison, on l'a dit en introduction, elle a été fructueuse pour la première équipe, mais aussi et surtout pour deux catégories de juniors qui ont été sacrés champions. C'est encourageant.
Alors c'est encourageant parce que c'est vrai qu'avec le conseil d'administration, on s'est fixé un objectif double, c'est-à-dire pas seulement de soutenir la première équipe et puis d'arriver en milieu de classement et de voir vers le haut, mais surtout d'avoir un mouvement junior qui nous permet d'amener des bons joueurs sur la glace en première équipe. Et puis ce double titre l'année passée, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel parce qu'on voit que la professionnalisation qu'on essaye d'amener, elle porte ses fruits.
Nadia s'est glissée dans les coulisses de la Tissot Arena, c'était samedi dernier, juste avant le match qui opposait le HC Bienne à Fribourg-Gotteron, match qui s'est soldé par une défaite finlandaise sur le score de 3-1. Nadia a fait le tour du stade en compagnie de Sylvain André, chef de presse du club, qui lui a fait faire le tour du stade. Il lui a tout d'abord expliqué l'importance de bien manger.
Sortie de boîte.
C'est clair, la gastronomie, c'est le plus important département parce que ça commence déjà très tôt, déjà le matin, ils doivent préparer des choses.
On va aller voir?
Oui, volontiers.
Je m'appelle Ambrose Nantes, je travaille ici à la Léa, c'est bien gastro.
Comment ça se passe dans la préparation? On commence combien de temps avant le match?
Ça commence environ une semaine ou bien plus en avance parce qu'il faut planifier ce qu'on veut faire. Dès que le chef de gastro, Rougi Gruenik, est d'accord avec les menus, le chef de cuisine il commande les produits pour environ 24 heures avant le match. Et le jour où il y a le match même, on commence vite le matin à préparer tout.
Puis les joueurs, ils mangent avant ou après le match?
Le matin, ils viennent pour s'entraîner. Puis à midi, on a un buffet qui est tous les matchs la même chose. Puis après le match, ils viennent toujours manger au restaurant 39.
Alors maintenant, ici, on se trouve où?
Alors, on est à la tribune de presse. Et ça, c'est vraiment l'endroit où il y a les commentateurs des différentes chaînes télévision, radio. Ouais, ça, il faut aussi parce que c'est très important pour nous aussi, les médias. Ce sont les personnes qui transportent un petit peu l'information du club aux spectateurs.
Et puis, une grande révolution dans cette Tissot Arena, c'est l'écran au milieu du stade. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans l'ancienne patinoire. Ça marche comment?
Oui, alors là, il y a différentes personnes qui s'occupent de ça. C'est aussi un autre département, c'est la régie, qui s'occupe de toutes les publicités et aussi, aussi la musique pendant le match. Et oui, ce sont plus ou moins tous des bénévoles ou des gens qui étaient déjà dans l'ancien stade.
Olivier Piguet, chef de la régie technique.
Chef de la régie, ça consiste en quoi?
Ça consiste d'être responsable pour une équipe d'environ 18 personnes. Évidemment, assurer le bien fonctionnement de notre installation sur le cube. Toute l'animation hors glace, la musique, dans les interruptions, etc., etc. Donc, plein de choses. Le totomate, la kisscam, la publicité, bien sûr, très important.
Donc, c'est vous qui réglez la musique qu'on entend lors du match. C'est aussi vous qui réglez le tu-tu-tu-tu-tu.
Oui, entre autres, on doit être attentif à ça. On doit être attentif au cours de jeu. Quand il y a un but, on doit passer une animation pour le but avec une publicité. Quand il y a une pénalité aussi. Donc chaque situation de jeu a en fait une publicité ou un effet, la musique correspondante.
Ici, on se balade où?
Alors, on est devant les vestiaires. Là, il y a l'équipe adversaire qui se prépare déjà. Et là, on a nos vestiaires à nous.
Yves Coton.
Et puis ici, on se trouve où?
Au milieu du stade de glace, entre les deux bancs de pénalité.
Et votre rôle ici, c'est quoi?
Je suis reporter. Moi, je dois tout écrire que l'arbitre il vient dire, en fait. Et puis, avant le match, on doit écrire tous les noms des joueurs, des entraîneurs, aussi les arbitres. Puis on doit les mettre sur l'internet, comme ça, il y a tout le monde qui peut regarder qui joue pas, et puis comme ça.
Sortie de boîte. Stéphanie Meria, vous assistez à toutes les rencontres du HCB à domicile. Est-ce que durant un match, vous encouragez votre équipe comme tout supporter ou vous êtes la vice-présidente du club qui réfléchit au nombre de points, au classement? Vous arrivez à mettre l'émotion de côté?
Alors, ça dépend des moments. Il y a des moments où on est avec des clients, on est avec des sponsors, on est avec des dirigeants d'autres clubs et puis là, on essaye d'être un petit peu plus, plus calme et puis plus posé. Mais après, il y a plein de moments où je reste et je suis dans l'âme et je le serai toujours, la supporter, et je crie, je hurle, je tape contre la vitre, je m'énerve. Tous les arbitres sont toujours mauvais, forcément, parce que je suis d'une mauvaise foi exemplaire, forcément. Et voilà, quoi. Mais ça dure le temps du match. Et puis, je crois que c'est l'émotion pour laquelle on est là. Et puis après, on remet ses petits souliers de dirigeant et puis on repasse à autre chose, quoi.
Il y a aussi la pression des supporters. Comment est-ce qu'on gère ça?
Mais la plupart du temps, on la gère vraiment très, très bien parce que c'est normal, c'est de l'émotion. Et puis, les gens sont là pour ça. Et puis, je comprends très bien. Et j'ai aucun problème avec des gens qui viennent me voir, qui vont me être plus ou moins gentils, parce que dans l'émotion, des fois, il y a des mots qui sortent qui peuvent être plus ou moins sympathiques. Et je trouve que ça fait partie du métier. Après, c'est vrai qu'il y a eu quelques situations de crise où là, la pression devient forte. Et puis là, ça devient difficile. Et il y a eu des moments vraiment, particulièrement dans l'affaire Schlepfer ou dans l'affaire des couleurs, où là, j'avais plus envie. Moi, j'aime bien pourtant aller au-devant des gens et puis écouter les gens. Et parce que je pense que c'est important qu'on entende ce qui qui se dit au sujet du club. Et là, il y a eu des moments où vraiment l'agressivité était telle que moi, ça me faisait plus envie d'aller voir les gens. Et ça, j'aime pas. Quand c'est comme ça, j'aime pas, parce que ça reste un sport, ça reste un divertissement. Et puis, je pense que même s'il y a beaucoup d'émotions, il faut quand même savoir le remettre à sa place. On parle pas de questions de vie ou de mort, même si pour certains, je sais que c'est, on en est presque là et c'est très important et je le comprends parfaitement. Mais après tout, il y a des moments, il faut aussi mettre les choses en perspective.
On a pu l'entendre dans le reportage, au-delà du hockey, de nombreux secteurs composent la structure qu'est le HCBN. L'entreprise prend d'ailleurs la forme d'une holding avec des sociétés sœurs. La dernière saison a bouclé sur un chiffre d'affaires de 15,6 millions de francs. C'était un record pour le club. Le budget de la saison en cours s'établit à 16,5 millions de francs. Certains disent que c'est l'un des plus petits budgets de National League. C'est difficile d'avoir une vraie comparaison avec d'autres équipes.
C'est toujours difficile d'avoir une comparaison parce qu'il n'y a pas de standard. Donc certains ont un budget que pour la première équipe, certains ont un budget pour tout le club. Nous, typiquement, c'est pour toute la holding. Et puis donc, du coup, c'est difficile de se situer. Mais c'est vrai que nous, on se situe plutôt entre 8 et 12 qu'entre 1 et 5. Quoi. Ça, c'est clair au niveau du budget.
Quoi qu'il en soit, les principales sources de financement du club sont les dons et le sponsoring. Ça représente 70%. Le club a d'ailleurs engrangé 4 millions de francs de la part de plus de 600 donateurs. Expliquez-nous la différence entre donateurs et sponsoring.
Alors, le sponsor, en tant que tel, il a forcément une prestation. C'est-à-dire, il va avoir une visibilité, soit au stade, soit sur une publicité sur le cube, soit sur un programme. Alors que le donateur, dans le mot donateur, il y a donné, c'est des entreprises ou des particuliers qui sont vraiment fans du HCBN et qui prennent 1, 2, 4, 6 billets et qui payent leur montant de cotisation. Et en échange, ils ont leur place de parking, plus quelques événements qu'on va organiser autour, parce qu'on essaie de créer un vrai networking autour de cette association des donateurs pour que les entrepreneurs de la région puissent se retrouver entre gens qui ont la même passion.
La plus grosse dépense du club, c'est le salaire des joueurs. Le salaire moyen d'un joueur en National League avoisine les 250 à 300 000 francs par saison. Est-ce que les salaires sont stables ou est-ce qu'ils prennent l'ascenseur au fil des saisons?
Alors malheureusement pour nous, les salaires prennent vraiment l'ascenseur au fil de saison. Il y a vraiment une pression vers les salaires qui va vers le haut. Et c'est compliqué à gérer parce que c'est vrai que si on veut des grands noms, il faut débourser des grandes sommes. Et nous, on ne peut pas se permettre d'en avoir une dizaine sur la feuille de match. Donc c'est pour ça aussi qu'on avait cette volonté d'avoir un mouvement junior qui soit fort et puis solide. Parce que face à ces quelques stars et ces joueurs expérimentés qui vont pouvoir justement amener de l'expérience, de la formation et puis de la stabilité, on doit pouvoir amener de jeunes loups qui vont, eux, être forcément en contrat de formation un peu moins cher, mais qui vont nous permettre d'avoir une équipe aussi équilibrée que possible. C'est tout l'art du directeur sportif.
Et lorsqu'on engage des joueurs étrangers, les salaires sont encore plus élevés et les risques aussi?
Alors, les joueurs étrangers, c'est toujours un petit peu un coup de poker parce que forcément, on n'a pas la possibilité d'avoir des gens qui se baladent dans le monde pour aller voir les joueurs de partout et puis de pouvoir se faire une opinion en ayant vu les joueurs. Il y a certains joueurs qu'on engage sur les recommandations de scouts et de gens différents. Et donc, du coup, effectivement, c'est toujours un petit coup de poker de se dire, est-ce qu'il va aller dans l'équipe? Est-ce que c'est justement un esprit d'équipe qui est important? Et donc, il faut trouver les personnalités qui vont aller avec les autres. Quoi.
Pour le HCBN, l'objectif est de s'installer durablement en milieu de classement pour jouer les playoffs, y compris cette saison. On l'a dit, le HCBN est actuellement 3e du classement, mais le classement est très, très serré. Les voyants ne sont donc pas encore au vert, mais est-ce qu'au sein du conseil d'administration, on pense déjà quand même aux playoffs?
Alors, évidemment, on ne va pas faire les arrogants ou les superstitieux. C'est évident qu'on a planifié cette saison avec une participation au play-off. On s'est donné comme objectif d'être dans les 6 premiers au terme de la saison régulière. Donc, pour le moment, on est vraiment dans les rails. Maintenant, c'est vrai qu'on a remarqué qu'on a commencé la saison sur les chapeaux de roue. Et puis que là, ça se resserre, que toutes les équipes commencent un petit peu à être en plein régime parce que tout le monde se prépare à cette phase finale du championnat. Et donc, du coup, on se rend bien compte que ça va être un vrai challenge. Mais sincèrement, nous, on n'a plus grand-chose à faire maintenant. C'est vraiment dans les patins des joueurs, des entraîneurs qu'est le puck. Et puis c'est à eux de maintenant prendre leurs responsabilités. Et je suis persuadée qu'ils vont le faire. Nous, pour le moment, on est serein. On se dit que ça va bien se passer. Et puis après, on verra en fonction des événements.
Décrocher un titre, ça fait aussi partie des objectifs?
Alors effectivement, décrocher un titre et puis accrocher un quatrième drapeau là, sur le toit de la Tissot Arena, ce serait vraiment magnifique. Alors il faut voir, est-ce qu'on est vraiment prêt cette saison? J'en sais rien, pourquoi pas. Mais effectivement, gagner des play-offs et puis cette machine des play-offs, c'est quand même une expérience qu'on a vue l'année dernière contre Lugano, et pas facile. Il y a toute une série d'intimidations, de beaucoup de psychologie qu'on doit peut-être encore apprendre avant de pouvoir aller aussi loin que d'autres équipes qui sont rodées dans ce genre d'exercice. On verra, il faut aussi un petit peu de chance dans une saison, donc on verra bien comment ça se déroule.
Il est temps pour nous d'accueillir la chronique horlogère de Marie-Lise Saillard qui aujourd'hui s'intéresse à un autre club de hockey sur glace de l'arc jurassien, le HC La Chaux-de-Fonds.
Pile à l'heure.
2019 sera une année marquante du côté de la Chaux-de-Fonds, c'est celle du 100e anniversaire du HCC. Le club de hockey sur glace est effectivement né après la Première Guerre mondiale en 1919. À l'occasion de ce centenaire, Tissot sort une montre spéciale. Et ce n'est pas un hasard puisque la marque Locloise est le partenaire principal du club. En toute logique, cette montre affiche un look sportif. Il s'agit d'un chrono qui reprend le code couleur du HCC. Le cadran qui comporte trois compteurs est bleu. Tout comme le bracelet qui existe en deux versions cuir, une classique et une avec des perforations dorées. Et les aiguilles sont recouvertes d'une matière luminescente dorée. Spécial a été créé pour ce 100e anniversaire. On le retrouve sur le fond du boîtier en acier, boîtier qui abrite un mouvement à quartz. Cette montre Tissot Chrono XL édition spéciale HCC 100 ans est vendue au prix de 345 francs. De quoi ravir les fans du club, les plus jeunes comme les nostalgiques de l'époque où l'équipe entraînée par Gaston Pelletier avait raflé 6 titres d'affilée en Ligue Nationale A entre 1968 et 1973. Et le HCC ont aussi réalisé une montre automatique à 1950 francs. Cette édition spéciale, limitée à 100 exemplaires, n'est pas commercialisée. Elle est seulement proposée directement aux principaux sponsors du club et aux collectionneurs.
Pile à l'heure.
Tissot est aussi l'un des sponsors du HC Bienne. Stéphanie Méria, est-ce qu'on pourrait imaginer une montre pour le HC Bienne?
Alors, il faudra en parler avec Tissot, mais j'imagine que oui, de notre côté, je pense. Mais effectivement, je pense que ça a du sens quand il y a un événement, quand il y a quelque chose de remarquable à fêter. Alors, ce n'est pas pour tout de suite, peut-être. Les jubilés, chez nous, ils ne sont pas encore tout de suite. Donc
il faudrait attendre les 100 ans du club.
Peut-être.
Stéphanie Méria, on parlait tout à l'heure des objectifs du HC Bienne. Est-ce qu'on pourrait vous voir à la tête du club en tant que présidente d'ici 2 ou 3 ans?
Alors écoutez, pourquoi pas? Effectivement, là maintenant, depuis que Patrick Stalder est président, on a vraiment envisagé tous les deux une collaboration. Et puis ce qui est important pour nous deux, c'est de savoir qu'on peut compter l'un sur l'autre et puis qu'on s'engage tous les deux à moyen terme, voire à long terme, on verra. Mais en tout cas, à moyen terme pour sûr, auprès de ce club, parce que c'est vrai qu'on dit toujours qu'au HC Bienne, on fait pas de révolution, on fait des évolutions. Et puis c'est en ayant des gens comme lui qui étaient là avant moi et puis maintenant moi depuis 10 ans, on va pouvoir perpétuer cette façon de faire au HC Bienne, cette façon d'avancer petit pas par petit pas. On espère ne pas être arrogant, ne pas avoir vraiment de faire les choses justes et puis au bon rythme, quoi. C'est ça l'idée.
Stéphanie Méria, nous sommes arrivés au terme de Sortie de boîte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à Sven qui était à la technique. L'intégralité de cette émission sera disponible sur notre site internet dans quelques minutes. La semaine prochaine, Sortie de boîte s'intéressera à la Fondation pour le cheval qui exploite 3 haumes de la région pour les équidés dans les Franches-Montagnes. Alexandre Rosset recevra sa présidente Béatrice Michel.
Sortie de boîte.